Plusieurs passages, alors là c'est un passage particulièrement sensible hein, de la mort de sa mère, mais aussi quand sa découverte, on verra ça plus tard, auparavant, dans sa recherche de Dieu. Je relirai quelques passages à un moment ou un autre. Alors je reprends un peu le cours de sa vie, puisque là il va quitter Ostie. Il va revenir à Carthage, et là, il va se retirer avec ses amis, un peu comme il l'avait fait à Cassis Iacum, pour se livrer à l'otium pieux. Mais il ne va pas rester très longtemps, parce qu'on va aller le chercher. Donc, il arrive à Tagaste en 388, une année après son baptême. Et il réalise donc son projet de vie monastique qu'il avait initié avant son baptême dans la campagne de Milan. Et il va mener justement pendant 3 ans, avec ses amis, une vie philosophique au sens de l'Antiquité, donc de recherche de la sagesse, sachant que la sagesse c'est le Christ et le philosophe, l'amoureux de la sagesse c'est le chrétien. Voilà, il va faire donc une vie philosophique d'essence finalement très grecque, hein, mais qui fait ainsi irruption dans la pensée chrétienne latine. Et là, le néoplatonisme a son importance. Vous avez vu pourquoi il combat ses larmes? C'est tout simplement par mépris de tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, de la corporéité, le mépris typiquement stoïcien ou néoplatonicien de ces chrétiens convertis. Hein. Souvenez-vous, Ambroise était plutôt stoïcien et comme tous les hauts fonctionnaires, et Augustin néoplatonicien après avoir congédié son manichéisme. Hans von Campenhausen, dans son ouvrage sur les pères de l'Église, dit « Le néoplatonisme a été la force qui brisa le carcan judaïsant de l'ancien christianisme latin. » Parce que les latins, étant moins formés à la philosophie, finalement avaient davantage reçu, et étant plus enclins au juridisme, avait davantage reçu la forme, on pourrait dire, justement, juridisante du judéo-christianisme, hein, et vous savez, donc assez proche de la synagogue. Donc le néoplatonisme était la force qui brisa le carcan judaïsant de l'ancien christianisme latin, celle qui, avec ses idées sur Dieu et sur l'esprit, eut raison du moralisme légaliste et de son rationalisme primitif, celle enfin qui ouvrit la voie pour laquelle un christianisme vétérotestamentaire a pu devenir le christianisme néotestamentaire. Augustin donc va ensuite, comme il avait réfuté le manichéisme, va ensuite réfuter le néoplatonisme, justement dans ses excès et dans ce qu'il a d'incompatible avec le christianisme. Alors, un peu plus tard, en 390, il va se rendre à Hippo Regius, hein, Hippone. Il va se rendre à Hippone pour y fonder une nouvelle communauté monastique. Et sans inquiétude, parce qu'il y a un évêque sur place. Or, cet évêque, Valerius, déclare qu'il voudrait un prêtre pour le seconder, donc pour être coadjuteur. Et du coup, on désigne Augustin à son corps défendant. Alors, il va exiger et obtenir de l'évêque de pouvoir mener la vie monastique. Et c'est certainement là qu'il va rédiger sa règle. Vous savez, la règle dite de saint Augustin, qui est un peu retouchée sous la forme qu'elle connaît actuellement, va être la règle des communautés de prêtres. Donc, il va être adoptée dans les chapitres de chanoines séculiers réguliers, enfin surtout réguliers, mais aussi va inspirer la vie des chanoines séculiers, et qui va être ensuite prise par tous ceux qui vont s'inspirer de ces chapitres, et notamment qui, à partir de ces chapitres, vont fonder les ordres mendiants. Car finalement, les ordres mendiants, sont, la plupart du temps, ont été fondés par des chanoines réguliers, à commencer par Saint-Dominique, qui était chanoine régulier. Hier, Saint-Antoine de Padoue, que nous fêtions, était un chanoine régulier. Donc, un nombre considérable de premiers dominicains, de premiers franciscains, ont été des chanoines réguliers, et évidemment, leurs règles, sauf celle de Saint-François, mais celle des Augustins, celle pas celle des Carmes, mais celle des Servites de Marie, bon, etc., etc., vont s'inspirer de la règle de Saint-Augustin, les prémontrer, évidemment, etc. Donc la règle de Saint-Augustin va avoir une diffusion considérable à cause de son origine, de sa finalité, qui était de servir à la vie commune des prêtres. L'évêque s'étant rendu compte que c'était quand même un rhéteur, et lui étant d'origine grecque et relativement malhabile en latin, il va lui demander de prêcher à sa place. Et évidemment, comme il fallait s'y attendre, Augustin est nommé coadjuteur et lui succède malgré ses scrupules qui étaient d'avoir à renoncer à sa vie d'étude et sa vie monastique. Alors Hippone, c'est la deuxième ville d'Afrique quand même, c'est donc pas une bourgade, mais c'est la ville qui est après Carthage en fait. Je crois qu'actuellement elle est à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Alors c'est une ville aussi où il y a plus de donatistes que de catholiques. Donc vous vous souvenez, au moment des grandes persécutions du IIIe siècle, un bon nombre de chrétiens qui avaient résisté aux persécutions voyaient d'un mauvais œil et méprisaient ceux qui avaient failli et qui avaient été réconciliés, et du coup aussi le clergé qui avait accepté de réconcilier ces chrétiens qui avaient trahi. Et si bien qu'ils s'étaient constitués en secte de purs avec bientôt leur clergé. Et il se trouve que la pars donatista, comme dit Augustin, n'est plus à l'époque simplement une minorité comme elle l'était encore à l'époque de Saint-Cyprien, mais elle devient extrêmement importante, elle a même une hiérarchie parallèle, au point même qu'ils vont avoir... Est-ce que quelqu'un peut fermer la porte là-bas en appuyant sur le bouton automatique ils vont finir même par avoir un évêque à Rome pour prétendre concurrencer l'Église officielle. Alors, à cette époque aussi... où l'Empire commence à se disloquer, hein, songez qu'en 410 Rome va tomber, l'évêque ne gouverne pas seulement l'Église, mais il assume aussi des fonctions civiques, notamment celle de Defensor Civitatis, hein, qui est une fonction civique. Alors, si bien que Augustin va devoir assumer toutes ces fonctions à la fois. Et son activité intellectuelle va s'en ressentir. Ses travaux, qui avaient toujours eu une dimension autobiographique, vont du coup devenir de plus en plus marqués par les circonstances. Ils acquièrent désormais un lien étroit avec son activité de pasteur. Alors, il doit résoudre toutes sortes de questions théologiques ou morales pressantes, notamment, alors non seulement de la part de ses diocésains, mais aussi de la part de ses prêtres et de la part aussi des évêques vous savez, il y a énormément d'évêques en Afrique du Nord, à peu près un par bourgade, et donc tous ces évêques, finalement, s'apercevant qu'Augustin les dépasse largement intellectuellement, bah, lui pose des questions, et en fait, il passera son temps à répondre à des questions, surtout qu'à l'époque, vous dis, le Saint-Siège est inexistant, il n'y a aucun document magistériel. Et donc, en fait, finalement, c'est l'évêque le plus malin, le plus intelligent de la région, de la métropole, qui répond à toutes les questions. Alors, il va répondre aux questions que se posent ses fidèles dans ses sermons. On en a plus de 600 qui sont répertoriés, et on en découvre sans arrêt de nouveaux. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on en a découvert une douzaine à Mayence. Et puis, ces lettres, on en a environ 300, dont 29, par exemple, ont été découvertes en 1981. Donc, vous voyez, ça renouvelle quand même pas mal les études augustiniennes. Il aurait, en fait, prononcé 3000 à 4000 sermons. Et quand on regarde les sermons d'Augustin, dans l'édition mini, parfois, ils font 5, 6, 7 pages sur deux colonnes, hein. Quatre colonnes même. Donc, oui. Vous voyez, c'est véritablement des sermons qui faisaient au minimum une demi-heure. Et donc, qui étaient pris en sténographie par des assistants, des prêtres ou des diacres, et qui étaient ensuite retravaillés par lui pour être publiés et distribués. Et donc, pour circuler aussi comme enseignement à d'autres évêques. Alors certainement qu'Augustin ne brille pas simplement par son art oratoire qu'il avait acquis par ses études, mais aussi par la profondeur de sa réflexion et pas aussi par la clarté de son expression. Il y a vraiment ce qui est intéressant, donc ce jeune homme qui cherchait à briller par la recherche des figures de style, etc., etc., quand il s'adresse à ses paroissiens d'Afrique du Nord, il utilise un latin très simple, enfin le latin qu'il parle et qu'il comprenne. Donc c'est assez amusant de voir d'ailleurs dans ses traités qui sont destinés à un public cultivé un latin relativement complexe, et dans ses sermons, un latin très simple, destiné à être compris par ses auditeurs. Par exemple, il se veut simple. Il le dit, c'est ce que dit Hans von Campenhausen. Il dit, comme la saine doctrine chrétienne... c'est dans le De Doctrina Christiana, un ouvrage d'Augustin, parlant de Cyprien, il disait... Comme la saine doctrine chrétienne a pu détacher sa langue de la rhétorique ampoulée d'antan pour la plier à la discipline d'une éloquence plus sérieuse et plus sobre. Voilà, il caractérise le langage de Cyprien. Cyprien qui était de sénateur, hein, donc qui était aussi un lettré. Donc lui aussi s'était fait tout à tous d'une certaine manière en choisissant un langage simple et compréhensible. Et là, Hans von Campenhausen dit d'Augustin, « Il possède le don rare, jailli de sa liberté et de son assurance interne, de rendre compréhensible ce qui est profond, limpide ce qui est compliqué, sans jamais dire de façon banale ce qui est simple. » Je trouve que l'expression du baron von Campenhausen est très belle. Hein, « Il possède le don rare, jailli de sa liberté et de son assurance intime, de rendre compréhensible ce qui est profond, limpide ce qui est compliqué, sans jamais dire de façon banale ce qui est simple. » Ah, ça, c'est... On peut dire que c'est bien dit. Donc, maintenant qu'il est évêque, et évêque, on pourrait dire presque métropolitain, même si ce n'est pas le cas, il va transposer à Hippone son mode de vie de Tagaste, c'est-à-dire le monachisme urbain. Donc, devenu évêque, il va abandonner le gouvernement de sa communauté, mais il invite ses prêtres eux-mêmes à vivre en communauté avec lui. C'est-à-dire que son évêché devient un monastère, en quelque sorte, un couvent. Et ce monastère d'Hippone deviendra une pépinière d'évêques qui vont ensuite être élus, pas nommés, hein, mais élus, parce que le clergé des autres évêchés et les chrétiens trouveront que ces prêtres sont de grande qualité, et ils deviendront donc évêques en Afrique du Nord. Et sa règle inspirera donc les chapitres, les chanoines, hein, et puis les ordres mendiants dans les siècles qui viendront. La règle de saint Augustin, dans son chapitre premier, dans son premier paragraphe, dit « Le premier objet de notre vie en commun est d'habiter ensemble en bonne intelligence et de n'avoir en Dieu qu'un cœur et qu'une âme. » Autrement dit, l'incitation des actes des apôtres 4.32 « Corunum anima una » et qui est la charte de la vie communautaire qui est de soi évangélisatrice puisqu'elle manifeste la charité en acte, voyez. Autant les moines, donc dans l'esprit monastique, c'est à la recherche de la solitude, donc le monachisme est d'essence érémitique et il n'est communautaire que d'une manière propédeutique, on peut dire, propédeutique à l'érémitisme, et donc il n'est évangélisateur d'une certaine manière que dans la mesure où on voit des gens saisis par l'absolu, en gros, mais qui se retirent du monde. Hein. Anachorète, hein, c'est se retirer du monde. Eh bien, la branche, on pourrait dire, canoniale, elle s'inspire des actes. Et les actes, c'est la recherche de la vie communautaire pour l'accomplissement d'une tâche apostolique. Et avec cette dimension d'évangélisation qui est la manifestation d'une vie de charité donc vécue en commun, parce que on voit plus facilement, quand on est avec des frères, qu'est-ce que peut signifier le pardon, le don de soi, etc., etc., que quand on est plongé au milieu de gens qui ne le sont pas. Donc c'est l'évangélisation par la communauté. Ça c'est typique de la règle de saint Augustin, mais qui s'enracine, vous voyez, dans les actes des apôtres. Hein, c'est pas une invention. Alors cette règle, elle insiste sur l'esprit de pauvreté, sur le renoncement obligatoire à toute propriété personnelle et donc de mise en commun des biens. Alors ça sera vécu dans l'histoire chrétienne de manière plus ou moins intense. Par exemple, chez les oratoriens, il n'y a pas véritablement de mise en commun des biens, chacun est autonome, mais on vit en communauté néanmoins. Voyez. Chez par exemple les ordres mendiants, c'est clair que la mise en commun est plus totale. Hein. Mais il y a tous les degrés finalement dans les gens qui suivent. Disons l'esprit des actes des apôtres. Dans le De Civitate Dei, oui, par exemple, la règle dit encore, il faut vivre à la manière des apôtres. Donc les apôtres ont été formés à la vie commune avec le Christ, et ensuite ils ont créé des communautés dans lesquelles ils ont vécu, comme celle de Jérusalem. Dans le De Civitate Dei, qui est une œuvre plutôt de la maturité, il dit « L'amour de la vérité exige un saint repos. » C'est toujours l'idée de l'otium. « Le commandement de l'amour, lui, se contente de bien moins que cela. Si personne ne nous impose cette dernière chose, on peut entièrement vaquer à la connaissance et à la contemplation de la vérité. » Si elle nous est imposée, il faut l'accepter pour l'amour du commandement de charité. Néanmoins, il ne faut pas renoncer totalement à jouir de la vérité, sinon toute douceur s'en va et la nue contrainte du devoir nous jette à terre. Donc, pour lui, il est clair que l'activisme est un danger et qu'il faut toujours nourrir notre agir apostolique par la contemplation de la vérité. Et donc, comment la contempler ? S'organiser dans une vie commune pour le faire. Donc, et alors c'est ainsi qu'on devient, comme la tradition le dira, vir ecclesiasticus, c'est-à-dire qu'on finit par coïncider avec l'ecclésia, hein, en s'effaçant dans l'Église, en quelque sorte. Alors, donc voilà ce que Augustin va faire pendant des décennies quand il sera évêque d'Hippone, et arriver à 72 ans, en 426, il va vouloir se démettre, mais les canons du concile de Nicée ne le lui permettent pas. Il s'éteignit donc dans sa charge le 28 août 430, au troisième mois du siège de sa ville épiscopale par les Vandales. Et ses restes ont d'abord été transférés en Sardaigne, puis le roi des Lombards, Liutprand, en fit l'acquisition et les transféra dans sa capitale, Pavie, où il demeure toujours donc, depuis le 8e siècle. C'est au moment où les Lombards, sous l'influence de la reine bavaroise, qui était catholique, vont passer au catholicisme. Alors, Augustin avait passé ses derniers mois à galvaniser les défenseurs civils et militaires d'Hippone. On dit qu'il inspectait les fortifications, qu'il passait en revue les troupes, etc. Donc il prenait au sérieux sa charge de défenseur de la cité. Et prenant conscience de sa mort imminente, il voulut mourir dans la solitude, pleurant et priant. Et Posidius, son ami et biographe, qui sera aussi son successeur, dit qu'il ne fit pas de testament car il n'avait rien, sinon sa bibliothèque qui fut sauvée et dont justement Posidius fit l'inventaire. Ce qui est très intéressant parce que ça nous donne l'inventaire d'une bibliothèque d'un lettré à la fin de l'Empire. Et il conclut en disant que par-delà sa science, ce qui charmait était son commerce avec les gens. Et ainsi, Augustin deviendra aussi le maître à penser de l'Occident, comme je disais la fois dernière, à cause du tournant anthropologique qu'il a donné à la théologie latine, à cause de sa propre expérience de conversion, d'abord réalisée en se frottant à la philosophie grecque, puis ensuite entrant en lui-même et découvrant le travail de la grâce dans sa nature rebelle. Donc voilà, on pourrait dire, la biographie d'Augustin. Alors peut-être on peut, pour faire une petite...